C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Brad Bird, né en 1957, réalisateur de dessins animés américain. Œuvre Les Indestructibles, The Incredibles, 2004 et Les Indestructibles 2, 2018. Personnage Edna Mode. Un vêtement est une armure. C'est ainsi qu'on pourrait interpréter la phrase relativement misogyne de Nietzsche à propos des robes décolletées. On n'a jamais vu de femme se sachant bien habillée attraper un rhume. Si elles n'attrapent pas de rhume, c'est qu'elles se sentent fortes dans leurs beaux atours. Les femmes et les hommes, n'est-ce pas ? Je possède une paire de bottines dont le talon est ainsi fait qu'il me donne, quand je les porte, l'impression d'être d'Artagnan. Une écharpe, c'est comme un bras qui nous protège de l'hiver, et même les vêtements invisibles par autrui qu'on appelle les dessous nous donnent une assurance de talisman. Si tu savais, pense la secrétaire persécutée par le directeur des ressources humaines, je porte un soutien-gorge en satin noir et je t'emmerde. De même que les êtres humains qui portent un uniforme, les super-héros sont coqués parce qu'ils portent un uniforme. Quand on pense que les militaires trouvent le moyen d'être fiers de leur hideuse tenue kaki barbouillée de marron. Il n'y a plus guère que les prêtres pour s'en foutre, comme ils se foutent de tout, à l'image de celui qui, me téléphonant pour préparer les funérailles de ma mère, m'a dit « C'est moi qui vais servir la messe pour votre père ». Ma mère, ah, votre mère. Je n'ai pas voulu regarder ses chaussures, car les chaussures des gens de culte sont la preuve de l'inexistence de Dieu. Personne ne montre mieux la fonction d'armure des vêtements qu'Edna Mode, la créatrice de mode du dessin animé Les Indestructibles. C'est elle qui crée les vêtements des super-héros, vêtements qui non seulement s'adaptent à leur pouvoir, mais les protègent. Cassante comme Karl Lagerfeld et intrépide comme Gabrielle Chanel, elle n'a peur de rien. Elle est en partie inspirée d'Edith Head, costumière des studios Paramount à Hollywood, qui a obtenu 8 Oscars et 35 nominations, ce qui est plus qu'aucune femme a jamais obtenu dans quelque catégorie que ce soit. Edna a de très bonnes répliques. La retrouvant après bien des années, Monsieur Indestructible lui parle d'un costume qu'elle lui avait dessiné, et elle « Je ne regarde jamais en arrière, chérie, ça distrait du présent ». Heureusement qu'elle est là. Sans elle, Les Indestructibles seraient un dessin animé de propagande familialiste. Il nous raconte la famille Parr et ses pouvoirs extraordinaires, la force au mari, l'élasticité à la femme, la vitesse au fils, etc. C'est un film qui est en partie une parodie des James Bond, mais une parodie gentillette où le célibat subversif et l'égoïsme féroce de Bond sont adoucis dans une crème où on sauve le monde en famille. Papa, maman et les enfants sont forts, non à cause d'un génie particulier, mais grâce au lien du sang. Ah, vraiment, sans Edna Mode, Les Indestructibles seraient un véhicule de la propagande des temps macmahonien où nous vivons. Vous vous rappelez Macmahon, le président de la République de l'ordre moral. Qui est Edna Mode? Pour en parler, je reçois Loïc Prigent, documentariste qui vient de publier les DVD Dessins de mode chez Arte Éditions et auteur du livre J'adore la mode, mais c'est tout ce que je déteste chez Grasset. Loïc Prigent, à quoi ressemble Edna Mode?
Un peu à vous. Il y a du masculin chez elle. Elle a la voix déjà d'un homme, puisque Brad Bird, dans la version américaine, c'est le réalisateur qui l'a... S'il se trouvait tellement drôle, et c'est souvent le réalisateur qui incarne les voix quand on fait les tests et tout ça. Et tout le monde le trouvait tellement drôle, et quand il a fait même écouter aux actrices qui devaient jouer le rôle, elles ont toutes dit « Oh bah non, oh, je serais pas aussi bien que ça ». Donc dans la version américaine, ils ont gardé la voix masculine, alors quand... En France, on a la chance, c'est Amanda Lear qui les joue.
Enfin, on parlait, mais physiquement,
elle est un mélange de Edith Head. Edith Head, elle a un carré noir qui ressemble un peu au carré praline de Anna Wintour. Donc, ça lui donne cette espèce d'autorité mode. Elle a des lunettes rondes et très noires. Donc, on devine que ce sont les mêmes lunettes à monture d'écailles de tortue que portait Edith Head. Et Edith Head, elle les portait avec des verres teintés, non pas noirs, non pas marrons, mais bleus. Parce qu'elle disait qu'avec des verres teintés bleus, on voit mieux comment les vêtements rendront en noir et blanc. Parce que ça peut pas s'inventer. Une
bonne professionnelle.
Ouais, une folle. Et elle ressemble aussi, par la petitesse, parce qu'elle est vraiment petite, à Polly Mélène. Et Polly Mélène, donc son vrai nom c'est Polly Allen Mélène, mais on l'appelle Polly Mélène dans la mode. C'est une grande, enfin, elle est petite, mais elle est grande, rédactrice de mode. C'est-à-dire que c'est celle qui a fait les grandes photos de Richard Avedon, beaucoup de Helmut Newton aussi. Elle est travaillée pour Diana Vreeland, Harper's Bazaar, puis au Vogue, à partir des années, je pense, 60, jusqu'aux années... Elle a pris sa retraite en 2010, où à la fin, elle était au Allure, qui est un magazine de beauté.
Vous êtes trop elliptique pour moi, Loïc Prigent, parce que vous me dites, elle a fait les photos de Richard Avedon.
Alors, c'est la rédactrice, c'est-à-dire que Diana Vreeland est rédac-chef. Elle dit, je veux une série de mode sur le Japon. Polly occupe temps. Donc, Polly va sur les défilés à Paris, dit, ah ben tiens, je veux ça qui ressemble à un kimono, je veux ça qui ressemble à du blanc, je veux ça qui ressemble à des ceintures de machin. Elle demande aux maisons, c'est Polly qui passe les coups de fil et qui dit aux maisons, donnez-moi ça. C'est elle qui ferme les valises, qui va au Japon avec Richard Avedon et qui choisit quel mannequin porte quel vêtement, sur quel fond, à quel moment. Richard Avedon, il fait clic. Après, il fait plus que clic parce que c'est monsieur Richard Avedon. Mais la rédactrice est souvent toute puissante et souvent, c'est étonnant de voir comment une rédactrice peut faire la même photo, qu'elle soit avec tel photographe ou tel autre photographe.
Physiquement, pour moi, elle ressemble un peu, je parle d'Edna, à Linda Hunt, vous savez, la petite actrice naine de l'année de tous les dangers, qui a d'ailleurs joué dans Prêt-à-porter de Robert Altman, un film haï par tous les gens de mode, je crois, et de Mireille Mathieu. Et avec tout ça, ça crée une peau de vache. Car Edna Mode, dans le film, est une femme dure qui ne s'attendrait jamais. J'ai cité une de ses sentences. Il y a une autre de ses phrases qui me plaît beaucoup, qu'on pourrait prêter à Napoléon, qui est « La chance favorise ceux qui sont prêts ».
Oui, elle est à deux doigts du carlisme, régulièrement.
Oui, c'est ça, oui.
Ben c'est l'idée qu'on se fait dans le divertissement et souvent des gens de mode, c'est des gens qui ont l'aphorisme facile, qui sont sans enfants, sans pitié, sans vergogne, mais avec un recul peut-être.
Parce que les gens qui ont des enfants ont de la pitié nécessairement ?
Forcément.
Forcément.
La preuve dans les indestructibles.
Mais est-ce que la vacherie est un lieu commun récent des créateurs de mode? Parce qu'on a l'impression que depuis des années, ça fait partie du métier, quoi. On crée des robes et en même temps, on est peau de vache. Ou bien est-ce que c'est une invention de Gabrielle Chanel? Ou bien est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce qu'on sait ça? Est-ce que ça fait partie de la panoplie?
Edna Mode qui s'inspire de Edith Head. Edith Head, elle avait pas l'air super commode, par exemple. Elle évince des gens. Les deux Oscars qu'elle a gagnés, enfin, deux des huit Oscars qu'elle a gagnés, il y en a un où les vêtements sont même pas d'elle, sont de Givenchy.
Ouais.
L'autre, c'est pareil, c'est même pas d'elle, c'est d'une dame qui, du coup, dont le nom n'est pas vraiment passé à la postérité. Elle a l'air assez dure comme dame.
Mais est-ce qu'on sait si Paul Poiret était vachard? Est-ce qu'on sait si les gens d'avant, si je puis dire, étaient aussi des peaux de vache?
J'ai pas l'impression. Enfin, je le sais pas en tout cas.
Tout ça, ma question, c'est que j'ai un peu l'impression que les créateurs de mode sont devenus des stars ou pensent l'être, et donc du coup se crée un personnage unique, alors qu'avant, les couturiers étaient peut-être des gens au service des clientes et étaient très encore au bord de la domesticité, si je puis dire.
Mais c'était des grands diplomates souvent. Oui, mais je pense que Charles-Frédéric Vort, qui est censé être le premier... Alors, il est d'origine anglaise, mais on dit Vort, on dit pas Worth. C'est une erreur, apparemment il faut dire Vort, parce qu'il était tellement snob qu'il voulait qu'on prononce à la française son nom. Et lui, il fait venir à lui les tsarines... Il n'y a que l'impératrice, je crois, qui ne se déplace pas. Mais toutes les autres devaient se déplacer à lui. Donc, je pense qu'il devait être assez...
Déjà un début de...
Ouais, sens début de peau de vacherie, ouais, peut-être. Ouais.
Et donc, Edna Mode, pour revenir à elle, a une voix très sèche et très nasillarde. Vous avez dit que Brad Bird a fait la voix lui-même. Je crois qu'il a dit qu'il s'était inspiré des voix allemandes et japonaises.
Ce qui est merveilleux.
Parce que pour lui, c'est la technicité.
Peut-être qu'elle ressemble du coup aussi physiquement à Rei Kawakubo, qui est la créatrice de la marque Comme des Garçons, qui ne parle pas beaucoup. Et quand elle parle, c'est assez mystérieux ce qu'elle va dire. Et maintenant, elle ne parle carrément plus du tout. Ou elle parle par l'intermédiaire de son mari, Adrien Joff. Et c'est vrai que du coup, chaque parole... un sens et un...
Parce qu'elle se
veut presque comme un oracle maintenant de la société entière.
La voix française, vous le disiez, Loïc Prigent, a été faite par Amanda Lear et elle a reconnu à peu près ouvertement, elle a fait aussi la version italienne d'ailleurs, qu'elle s'était inspirée de Lagerfeld.
Et elle dit que c'est vraiment un gage de popularité assez dingue aujourd'hui pour elle. Apparemment médiatiquement, ou enfin, il y a une surface tout d'un coup avec ce genre de film qui fait que beaucoup de gens vous voient, c'est vraiment vu par les familles et tout ça, donc ça a dû lui ouvrir un nouveau public, j'imagine.
Alors,
c'est pas mal comme reconversion.
Oui, puis comme ça on la voit plus. Je voudrais qu'on parle.
C'est vrai. Que des avantages.
Qu'on parle un peu plus de cette Edith Head dont vous nous avez parlé au début de l'émission, Loïc. Donc, elle est née en 1897 et morte en 1881.
Jamais. Alors, j'ai regardé sa nécro dans le New York Times quand elle meurt en 81.
Ouais.
Et le New York Times écrit, donc, le Newspaper of Record, c'est ça qu'ils disent. Et ben, ils disent, on ne sait pas quel âge elle a. Donc, c'est récent qu'on sache qu'elle était née en
1823.
Non, 1800.
Qu'est-ce que j'ai dit? Attendez, j'en recherche.
Elle était née
1897.
Voilà, c'est nouveau qu'on sache ça. En 1980, quand elle décède, les journalistes écrivent, on pense qu'elle est au 8e étage, mais on ne sait même pas.
Ah.
Elle faisait mystère de son âge.
Ah.
Elle refusait de le dire.
C'est bizarre parce qu'elle a toujours eu l'air d'une femme sans âge, précisément à cause de cette espèce de coupe de cheveux, de ses lunettes, elle s'est créée un personnage de femme sans âge.
Je pense qu'elle était très complotiste et que le fait de pas dire son âge fait qu'on peut continuer de travailler très longtemps. Plusieurs décennies après après que ce soit qu'on soit peut-être dans un âge où on n'est pas censé être à la mode.
Il est vrai qu'elle a eu à se battre, car j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, c'est vous qui êtes spécialiste qui allez me le dire, que après la crise de 29 aux États-Unis,
il y a eu une crise en 29.
Il y a eu toute une série de gens désemployés ou au chômage qui sont venus de l'Est à Hollywood, et des hommes et des couturiers, etc., et qui sont arrivés à Hollywood et qui ont pris des travaux de femmes, des métiers de femmes. Et ce qui fait que Hollywood était beaucoup plus féminin avant la crise de 29 qu'après, où des hommes sont arrivés, se sont battus pour piquer des boulots de femmes.
Sa réputation est aussi d'avoir piqué des boulots pour arriver là où elle était. Donc je pense qu'elle était dans une cohue, elle devait bien se débrouiller pour arriver en haut de l'escalier. Mais c'est vrai qu'en 31, Coco Chanel elle-même, Gabrielle Chanel, arrive à Hollywood. Elle est débauchée par Samuel Goldwyn. Elle va faire, je crois, 3 films. Elle a été payée $1 million. Il y avait même un deal que les vêtements allaient être en même temps vendus dans des magasins et tout ça. Mais ça n'a pas perduré. Parce que c'était loin. Hollywood était loin de Paris et qu'elle préférait rester à Paris. Mais aussi, et c'est Edith Head qui le disait, en fait, c'est pas le même métier, costumière et couturière.
On va en parler tout à l'heure. Edith Head, elle a créé les costumes de beaucoup de gens. Elle a créé le costume de Betty Davis dans Eve, pour lequel elle a eu Oscar. Elle a habillé Natalie Wood dans 7 films. Elle a aussi habillé des hommes, Robert Redford ou Cary Grant. Et une des préférées, une des actrices qui l'a préférée, c'est Audrey Hepburn.
C'est paradoxal parce que c'est des vêtements souvent de Givenchy qui passent par les fourches codines de Edith Head et qui deviennent du Edith Head au générique. Ça, c'est étonnant. Et elle a l'Oscar et pas Hubert de Givenchy.
C'était pour Sabrina.
Pour les tenues, oui, voilà, de Sabrina, de Billy Wilder, c'est
Billy
ça
Wilder. C'est Billy Wilder, je crois, qu'il trouvait que les costumes de Edith Head étaient pas insuffisamment parisiens, qui a fait venir Givenchy. Et c'est Edith Head qui a été crédité au générique et qui a été appelé pour les Oscars, alors que tous les costumes étaient de Givenchy. Ce qui est assez cruel.
Ou magique. Moi, je trouve ça. Bon, pour une fois que c'est une femme qui récupère le truc à la place d'un mec,
Loïc Prigent, Edith Head s'est mariée une fois à un alcoolique dont elle a divorcé tout en gardant son nom. Elle était née Posner, puis elle a épousé un autre homme, mais un gay, qui était le directeur artistique de la Paramount. Ma question est, Edna Mode est-elle lesbienne?
Je sais pas, il y a des indices de ça, pas trop. Hein. Elle n'est pas très sexualisée, justement, dans le. Elle n'est pas très sexuée ou très...
Alors peut-être elle est bonne sœur, c'est une bonne sœur de la mode, du costume.
Oui,
elle est toute
ça,
vouée
oui,
à
pense.
Son costume.
Oui, je pense qu'elle est monacale dans ce sens-là, oui.
Alors je l'évoquais dans mon introduction, dans le familialisme déchaîné des temps contemporains, les Indestructibles 2 ramollit Edna Mode, c'est-à-dire qu'on la voit s'attendrir pour le bébé de la famille des super-héros et faire du babysitting. Ça me paraît, vous voyez, Karl Lagerfeld...
Fiction.
Voilà, c'est ça.
Ah non,
vous
Karl Lagerfeld, il est très...
Donner le biberon à un bébé.
Comment dire, il est très enthousiasmé par ces petits filleuls, je crois, et tout. Donc non, il y a un aspect...
Oui, mais ils ont 19 ans.
Non, justement, qui défile pour la maison Chanel, et il y en a un qui s'appelle Hudson, et il a moins de 10 ans, je crois. Non, donc ils ont
un cœur.
Il y a des cœurs qui battent sous tous ces plastrons.
Nous allons maintenant entendre La Biaiseuse, chantée par Caroline Clerc en 1964. C'est une chanson de Léo Lelièvre et Paul Marinier qui date de 1912.
Dans les grandes maisons de couture, il y en a qui sont trottins ou bien vendeuses. Et par nature, il y en a qui sont mannequins. Il y en a qui font des corsages, d'autres qui font des surjets. Moi, mesdames, messieurs, mon ouvrage, c'est de faire les robes en biais. Pour bien biaiser une robe, ma foi, oh, il y en a pas deux comme moi. Je suis biaiseuse chez Paquin. Je biaise du soir au matin. L'éveiller, c'était mon bonheur. Je suis pas pour la journée de 8h. Et le travail de nuit ne me fait pas peur. Je suis biaiseuse chez Paquin. Pour mon métier, j'ai le béguin. Quand mes parents me voient pas rentrer, ils disent, y'a pas à s'inquiéter, elle est encore en train de biaiser.
Loïc Prigent, quels ont été les grands costumiers de Hollywood, à part Edith Head, dont nous venons de parler?
Dans la nécrologie du New York Times de 1981 pour Edith Head, le journaliste dit assez cruellement, bon, elle n'avait pas le talent d'Adrian. Et donc ce Adrian, manifestement, a marqué plus pour son côté artistique que Edith Head. Je crois qu'il fait des tenues de Joan Crawford, et c'est vrai que j'ai vu des tenues d'Adrian être copiées dans des maisons françaises de haute couture encore récemment. Il est plus dans un...
Plus créatif?
Peut-être plus créatif, plus falbala, plus chalala, plus spectaculaire que Edith Head, qui, elle, j'ai l'impression, sert plus la dramaturgie. Elle a besoin de Givenchy, hein, quand on a besoin de volume et tout ça, ou quand elle fait les tenues de Grace Kelly dans Fenêtre sur cour. Et c'est très beau, très spectaculaire, mais honnêtement, c'est du Dior. C'est du pompage de Dior.
C'est une imitatrice.
Je pense, oui. Ou en tout cas, elle a le sens de ce qui est efficace. Et ce qui est efficace peut venir d'un magazine de mode ou d'un magasin, tout ça. Alors que Adrienne, par exemple, j'ai l'impression, dessine plus des choses qui lui sortent de l'esprit. Il est plus dans l'idée qu'on a d'un couturier à la française, c'est-à-dire quelqu'un qui est inspiré, qui fait des crobards et un atelier de travail.
Ce que j'ai lu, vous allez me dire si c'est vrai, de Edith Head, c'est qu'elle était très aimée des actrices car elle avait un génie pour cacher les défauts. Il paraît que Audrey Hepburn, au début, l'aimait beaucoup parce qu'elle dissimulait son cou qu'elle avait trop maigre. Barbara Stanwyck, elle avait les jambes trop courtes et Edith Head lui faisait des robes de telle sorte qu'elle avait l'air d'avoir des jambes plus longues. Et Elizabeth Taylor, elle camouflait son ample poitrine.
C'est ça la différence entre couturière et costumière. La costumière travaille au service d'un film et donc d'une illusion, et donc elle est au service du réalisateur, et elle est au service aussi des actrices, qu'elles soient, et que ça aille dans le sens d'une narration et d'un arc dramatique, quoi. Donc c'est vrai que c'est autre chose que de décider d'avoir un twinset rose, parce que c'est tendance, c'est je décide très précisément de tel pantalon pour dire telle chose et tout ça. Mais elle était très fière apparemment, elle était presque plus fière de son travail sur les costumes masculins que sur les costumes féminins. Et c'est pas quelque chose qu'on pourrait analyser facilement si
non,
on n'est pas costumier, quoi. Parce que c'est vrai que ce qui reste de son héritage, c'est vraiment les choses plus spectaculaires et tout ça.
Oui, parce que Cary Grant, elle l'habillait un peu à l'anglaise avec des costumes cintrés. Qu'est-ce que ça a de si singulier?
Alors, ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que ça, quand un costume d'un film des années 40 peut nous paraître banal, il peut nous paraître banal parce que c'est justement le costume qui a défini la tendance sur une dizaine d'années et dans le monde entier. Parce que ces films étaient vraiment extrêmement prescripteurs et le sont encore. Les films sur lesquels Edith Head a travaillé, pour les costumes d'acteurs comme pour les costumes d'actrices, sont toujours à ce jour imprimés et épinglés sur ce qui s'appelle les mood boards, c'est-à-dire ces espèces de grands tableaux qu'on fait dans les maisons de prêt-à-porter ou même de couture pour définir quelle va être la tendance, dans quelle direction on part et tout ça. Et c'est vrai que les costumes masculins que fait Edith Head, ils sont encore aujourd'hui regardés comme des grands classiques, enfin comme des classiques à imiter. Donc ça peut, cette espèce de banalité, c'est parce que on est face au moule, quoi, au numéro zéro.
Est-ce qu'une différence entre un costume de ville, si je puis dire, et un costume de théâtre ou de cinéma, c'est que Au théâtre ou au cinéma, le costume doit s'adapter non seulement à l'acteur ou à l'actrice, mais aussi à la caméra, à l'éclairage. Et moi, il y a quelques années, j'ai vu une exposition de costumes de cinéma au Fashion Institute of Technology de New York et qui me paraissait... Qui me paraissait hideux. Et c'est probablement parce qu'ils avaient été créés pour des éclairages très violents, pour des... Est-ce que c'est possible ce que je dis ?
Il y avait ça dans l'exposition très récente au musée d'Orsay sur Renoir, père et fils. Et il y a quelques costumes et c'est vrai qu'ils paraissent extrêmement bizarres, ces costumes de cinéma. Ils sont pas, c'est pas des choses qu'on a envie d'enfiler, ça a l'air rigide, ça a l'air... c'est cousu avec des velcros presque, c'est très étonnant.
Alors, il y a, je crois, des passages du costume à la mode, si je puis dire. Et un cas, je crois, est quelqu'un de très connu aux États-Unis, je ne sais pas s'il est très connu en France, c'est Oleg Cassini.
Oleg Cassini qui a une vie bizarre. Et sur la fin de sa vie, Hubert de Givenchy était assez en colère contre, Oleg Cassini. Et il le disait. Je crois qu'Hubert de Givenchy avait été choqué que Oleg Cassini aille jusqu'à écrire dans son autobiographie qui était sortie aux États-Unis qu'il était vraiment l'auteur des tenues que Hubert de Givenchy, pour le coup, avait fait pour Jackie Kennedy à l'époque, lorsqu'elle était première dame des États-Unis, et que, apparemment, pour des raisons de commerce extérieur, commerce intérieur, PIB, PNB, je sais pas, il fallait qu'elle dise que c'était américain, donc, et elle achetait chez Givenchy, puis je sais pas si on allait jusqu'à recoudre l'étiquette, mais en tout cas, on disait que c'était Oleg Cassini qui avait... Et c'était pas le cas, et ça, je crois qu'on peut dire le verbe enrager, donc ça enrageait Hubert de Givenchy sur la fin de ses jours.
En tout cas, Cassini, précisément, avait été costumier avant. Il avait été costumier à Hollywood. Il a fait beaucoup de costumes pour Jean Tierney, qu'il a de plus épousé. Donc, ça veut dire que le savoir-faire du costumier peut se transformer et qu'on peut devenir un vrai créateur de mode, alors que ça n'a pas l'air, disions-nous, d'être tout à fait la même chose.
Bah, pas tant que ça, parce que son plus grand coup d'éclat est une imposture. Donc bon, est-ce que le passage à la mode a été réussi ? Pas forcément. Ouais. Et est-ce qu'une première dame, habiller une première dame, est-ce que c'est aussi différent de ça que de faire costumier ?
C'est vrai.
Je ne sais pas.
C'est vrai.
À un moment, on sent que c'est vraiment du costume.
Oui, c'est très juste. C'est très juste. Elles peuvent pas s'habiller normalement en réalité.
Il y a plein de règles proches du folklore à respecter, ouais.
Sauf celle qui préside la France en ce moment, l'air de s'adapter à des règles...
Il y a un styliste qui travaille, je crois qu'il y a des rendez-vous qui sont faits, qui sont très sérieux, avec des créateurs de mode et tout ça. Et il me semble que c'est très très étudié de tout ça, au contraire.
Ah bon. Dans une interview à Libération, la costumière Gitti Fuchs a dit, et je la cite, car ça me paraît très intéressant, la difficulté, elle parle de costumes de cinéma, la difficulté de créer des tenues contemporaines tient surtout à ce que les spectateurs savent instinctivement ce à quoi les personnages devraient ressembler. Dans un film historique, ils sont bien obligés de croire au travail du costumier.
J'ai vu récemment un Peuple et son roi, qui est un film historique qui raconte la veille et la Révolution française. Et c'est vrai que je me disais, tiens, est-ce que c'est assez froissé, ces costumes de gens des faubourgs parisiens Ah tiens, est-ce qu'ils sont assez sales? Et c'est des questions qui doivent être compliquées à se poser et tout ça pour que ce soit crédible et tout ça. Mais je crois que c'est assez récent que, de toute façon, que les costumes dans les films sont pas que blancs immaculés.
Comment ça?
Il me semble que dans les films de Cap et d'Épée, tout le monde a la chemise blanche parfaite et à midonnée. Même s'ils interprètent des charretiers au fin fond de la Creuse au XVIe siècle.
Mais ça, c'est un des méfaits du réalisme. C'est probablement Ariane Mnouchkine qui, dans son Molière, a tout d'un coup inventé des rois de France parasés avec des costumes froissés, comme s'il avait été possible qu'Henri IV ou Louis XIV se promènent parasés. Enfin, c'est des choses... L'idée de réalisme est quand même très néfaste.
Je ne sais même pas ce que c'est que le réalisme, je ne peux pas répondre. J'aimerais tellement savoir.
Mais, car au fond, tout costume, au contraire du vêtement, parce que tout ce dont on parle, c'est qu'un costume, depuis tout à l'heure, Loïc Prigent, c'est qu'un costume n'est pas un vêtement.
Un costume n'est pas un vêtement. Un costume est un simulacre, un élément de mise en scène, quoi. Ou, qui sert parfois à rassurer l'actrice, mais qui sert surtout à raconter une histoire.
De nos jours, et pour en venir en France, des créateurs de mode ont été embauché par le cinéma. Il y a eu Pierre Cardin, par exemple, pour Chapeau Melon et Bottes de Cuir.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Et puis, plus récemment, j'ai un peu cherché. Il y a des costumiers de talent, ou en tout cas qui travaillent beaucoup, comme Catherine Le Terrier, qui est un des nombreux enfants Fabius à avoir réussi, puisqu'elle est la sœur de Laurent Fabius et la fille de l'antiquaire Fabius.
Jean-Paul Gaultier, par exemple, a fait des costumes de cinéma dont des choses assez magistrales. Il a fait des costumes du Cinquième Élément qui finalement fonctionnent comme un effet spécial de plus et un marqueur du temps dans ce film qui se veut une, comment on appelle ça quand c'est dans le futur,
de la science-fiction.
Voilà. Et ben ces costumes vont avec ça et apportent une légèreté, une frivolité assez utile à ce film. Et il a aussi fait des costumes de déguisement pour d'un personnage d'homme qui est peut-être une femme dans un film d'Almodovar dont je n'ai plus le nom là dans ma tête.
Tout sur ma mère. La mauvaise éducation.
La mauvaise éducation. Il y a des tenues de Jean-Paul Gaultier de scène.
Ah bon?
Qui sont vraiment fantastiques. Avec des, il y a par exemple une combinaison où il semble qu'il soit nu. Et en fait, tout est reperlé, rebrodé. Et dont des, comment on va dire ça? Des jolis tétons rebrodés, un joli sexe féminin en perles, comme ça, en caviar de perles.
C'est assez magnifique. Mais c'est intéressant d'ailleurs. Est-ce que ça voudrait pas dire que Jean-Paul Gaultier fait aussi des vêtements qui sont plutôt des costumes, et n'est-il pas celui qui a créé la fusion entre costumier et créateur? Enfin, peut-être parce que je pense au costume de scène de Madonna avec ses seins en pointe comme des obus, mais...
Sa vocation vient du cinéma, c'est un choc en regardant le film de Falbala. Ça, il le revendique toujours dans l'affiliation au cinéma.
Falbala, c'était qui? C'était...
C'est Jean Becker, c'est ça?
C'est Jean Becker, oui. Et donc, est-ce que vous diriez que dans ses vêtements, il est un peu costumier?
Il y a vraiment les deux, parce que à la fois il regarde le cinéma et c'est une obsession récurrente. Il regarde beaucoup la scène de théâtre aussi, mais il regarde aussi forcément beaucoup la rue. Il est vraiment au carrefour de ces deux influences.
Alors vous y croyez ça aux créateurs. Qui regardent la rue? Ils sortent tous en voiture à vitre fumée entre le Curtain.
Ils sortent vraiment. Ils passent des week-ends à Londres. Ils passent des week-ends à Berlin. Ils voient vraiment ce qui se passe. Ouais. Ça, j'y crois.
Ah bon, j'avais l'impression que c'était un peu un cliché de bon élève.
C'en est un, oui, mais dans le cas de Jean-Paul Gaultier, non.
Le personnage d'Edna Mode est devenu si populaire qu'il est cité même indirectement dans la série 10%, la récente série 10%. Il y a un épisode où Juliette Binoche essaie une robe pour le Festival de Cannes. Eh bien, il y a pour ça un personnage de costumière qui a exactement les mêmes lunettes, la même coiffure et le même péremptoire qu'Edna Mode. Ça, c'est la gloire, non?
Ah oui, c'est la gloire. C'est
quand on se met à imiter même un personnage de dessin animé, lequel est une imitation d'une personne de la vie réelle?
Mais je crois qu'Edna Mode est vraiment iconique. Elle a vraiment volé la vedette à tous les autres personnages du premier film. Dans le second film, je pense que le temps de parole a été doublé ou triplé. Enfin, elle a même des sentiments presque dans le second, alors que dans le premier, elle était juste une évocation. Elle était un peu comme le personnage qui donne les gadgets dans Monsieur Q, c'est ça, dans James Bond. Alors que dans le deuxième, elle devient plus, elle a de l'empathie presque. Ce qui est de la fiction, on est d'accord, dans la mode.
Il y aurait une rencontre intéressante. Ça serait le personnage de Edna Mode et celui de Polly Magou
avec Karl Lagerfeld. Ce serait bien de les mélanger.
Loïc Prigent, que vous a appris le personnage d'Edna Mode?
La mode, c'est vraiment cinégénique, télégénique, dans ces espèces de caricatures de personnages. Ces personnages complètement fous et complètement hors du monde sont vraiment un matériau de fictionnel, mais aussi d'empathie, parce que les gens ont de l'empathie pour elle, et un matériau d'humour assez génial. Et ça passe, même si on sait pas qui est Balenciaga, Edna Mode, on comprend que c'est drôle.
C'était Personnage en personne, le 69e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage de Baby Jane Hudson, créé par Betty Davis dans Qu'est-il arrivé à Baby Jane?
Comme si j'étais assis là-haut au paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, attaché de production Pascaline Monet, prise de son Éric Boisset.
Ma vie, le paradis acquis.
Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.
Grand jeudi, tous les jours.